dans les prochaines heures.
Donald Trump qui est à Pékin, il est allé rencontrer le président chinois pour discuter de plusieurs sujets qui seraient, somme toute, extrêmement intéressants. On nous dit que c'est des discussions positives, des discussions qui sont productives. Moi, si j'étais Taïwanais, puis je regardais les journaux actuellement, je sais que Donald Trump s'en va en Chine pour tenter de régler le conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Les Chinois ont leur mot à dire dans ce fameux conflit-là, mais Taïwan a peur de servir de monnaie d'échange dans le dossier. Qu'en est-il? On en parle avec David Chabot, notre chroniqueur international. Salut mon chum!
Salut, salut!
Très content que tu sois là. J'ai-tu des raisons de craindre si je suis Taïwanais un matin? Là? Je m'organise-tu un petit voyage... À Cuba, ou encore au Canada,
ouais,
ou encore
Cuba, c'est peut-être Cuba. Pas bonne place.
Aux États-Unis.
Ouais, le Cuba, peut-être pas ma meilleure idée, voyage soleil de ce temps-là. Tu sais, dans une conversation, il y a deux personnes. T'sais, moi, je te parle, tu me réponds, je t'écoute, tu t'écoutes ce que je te dis idéalement, puis bon.
Idéalement.
Idéalement. Mais il y a des gens qui entendent, pas pour écouter, mais pour répondre, en tout cas. Bref, tout ça pour dire que...
J'ai l'impression d'entendre nos conjoints parler.
Ouais.
J'aimerais que tu écoutes ce que je te dis, idéalement.
Idéalement. Puis là, on fait oui après le match de hockey, s'il vous plaît.
Oh non. Oh non.
Ça n'est pas des chaumières. Mais tout ça pour dire que dans la conversation actuelle entre Xi Jinping puis Donald Trump, les deux parlent, mais pas certain que les deux s'écoutent, par exemple. Parce que là-dedans, Donald Trump est parti avec 12 grands entrepreneurs. Puis on va se le dire, il y a une mission économique qui est assez incroyable.
Elon Musk est là.
T'as,
le gars d'Apple.
Tim Cook. Ouais, il l'appelle tout le temps Tim Apple. Là. Il a fait un truth récemment qui a encore dit ça. Puis le gars de Nvidia, tu sais, le grand boss de BlackRock, qui est comme le fonds d'investissement en équité le plus grand au monde. Fait que tu sais, il arrive avec la grosse gang, puis lui, il a un message à date, tu sais. Aide-moi donc avec l'Iran, parce que dans le Détroit, toi, t'as beaucoup d'influence avec l'Iran. Fait que, monsieur chinois, veux-tu, s'il te plaît, faire ta job, puis rouvrir le Détroit? Ça, c'est la mission de Trump. La mission Xi, c'est « Hey man, moi, j'ai des intérêts dans la région. Taïwan, qu'est-ce que tu penses de ça? » La réponse à Trump, c'est « Ouais, mais l'Iran, moi, là, parce que Taïwan, je m'en sacre un peu. » Il se fait poser la question par les journalistes, évidemment, parce que là, il y a une méga délégation de journalistes. Puis, il évite la question de Taïwan parce que, sincèrement, il s'en sacre. Parce que le gouvernement Trump, dans le fond, la directive, ou en tout cas, la philosophie, la doctrine de Trump, c'est « America first », on se comprend. Puis Taïwan, ça a été une espèce de protectorat historique américain depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis qu'il y a eu la guerre civile en Chine, puis ça s'est séparé en deux provinces. Là, en tout cas, l'histoire de tout ça pourrait être longue à expliquer, mais tout ça pour dire que les États-Unis ont toujours été là pour dire « on va protéger Taïwan ». Puis là, on arrive avec un président qui a l'intérêt plus des États-Unis centrales, là, local, à cœur, beaucoup plus que d'aller défendre quelque chose à l'autre bout du monde. Fait que là, lui, quand il se fait poser des questions sur Taïwan, il est comme, je veux pas trop. Moi, je suis pour faire des deals. Parle-moi de business. Je veux faire des deals, puis parle-moi de l'Iran, puis là, la Chine achète mon pétrole, là, puis laisse faire l'Iran, puis demande leur de fermer le détroit. C'est ça son focus en ce moment. Fait que là, ça va jaser de technologie, ça va parler de développement économique. Ça parle pas bien de changement climatique, par exemple. Mais, tu sais, mettons, le vibe a changé depuis les derniers présidents. Là. Mais ça se parle pas des mêmes affaires, okay. Mais ça.
Mais le levier du président chinois, c'est Taïwan. À partir du moment où Donald Trump donne son accord, puis je suis pas sûr qu'il donne son accord de cette façon-là, là, ça va être un peu plus discret comme accord, les Chinois vont accepter d'aider dans le détroit d'Ormuz, puis les Chinois vont prendre Taïwan.
Bien, probablement. Tu sais, je suis pas en train de dire que demain matin, ça s'envahit. Sauf que tu sais, quand tu démontres un désintérêt par rapport à un dossier comme ça, c'est comme si tu disais « fais donc ce que tu veux, parce que moi, j'ai d'autres intérêts ailleurs ». C'est ça qui se passe en ce moment.
Un peu ce qu'il fait avec Poutine puis l'Ukraine.
Bien, pas mal, parce que tu sais, la fameuse guerre qui allait régler en 24 heures continue à faire des morts et des blessés tous les jours. C'est vraiment toujours aussi catastrophique ce qui se passe en Ukraine. Puis d'ailleurs, l'armée russe trouve le temps long pas mal là-bas. Donc là, Xi a fait la bonne chose. Là. Il a déroulé le tapis rouge avec la fanfare, puis les centaines de soldats, puis la revue.
Là, il y avait des drapeaux américains, les enfants tenaient ça dans leurs mains.
Donald Trump qui dit au président chinois, c'est un honneur d'être votre ami.
Ouais.
C'est particulier.
C'est particulier quand il est la plus grande démocratie au monde.
Oui, avec le pays le plus communiste de la planète.
C'est ça.
Puis là, ben, tu sais, je veux dire, le même président qui donne des claques en arrière de la tête de l'Europe puis qui dit que c'est toutes des caves puis que l'OTAN ça devrait pas exister puis que l'ONU c'est des bâtards s'en va en Chine qui a pas juste des défauts, on se comprend, la Chine est un pays qui fait bien des bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de problèmes de droits humains puis d'équité sociale puis tout ça. Puis là, c'est le plus grand dirigeant, parce que c'est un dictateur, dans le fond, le Xi. Là. Oui, il y a un vote technique avec le Parti communiste, mais en réalité, il n'y en a pas. Donc là, c'est toujours cette espèce de tendance-là à Trump d'aller se coller à des leaders forts, des leaders charismatiques, l'espèce de culte de la personnalité, puis il essaie de créer la même chose aux États-Unis, on le sait. Là. Fait que c'est comme dommage que les États-Unis, comme pays, prennent position à travers la vision très, disons, autonomiste et centrée sur le culte de Trump en ce moment. S'il y a bien une époque dans la planète qui est importante de se rassembler puis d'essayer d'avoir des bons objectifs communs, c'est pas mal maintenant. Là, remarque, on aurait pu dire ça toutes les décennies, remarque, là, mais là, tu sais, il serait le temps, mettons, qu'on réaligne les choses, parce qu'il y a plein de conflits, plein de choses qui flottent, puis là, c'est pas le temps d'aller se coller, genre, un dictateur chinois pour, tu sais, développer un intérêt très, très américo-centrique, puis laisser le reste pogner en feu, là.
Est-ce qu'on a parlé de nucléaire avec le président chinois?
Pas à ma connaissance. Là, les talking points, là, les fameuses, les ordres du jour, si on veut, là, c'est très, très sommaire ce qui se discute. Mais moi, j'ai pas vu ça là-dessus là, par rapport au nucléaire. Mais les deux pays ont le nucléaire déjà. Donc là, c'est comme une espèce de statu quo là, à ce sujet-là.
Moi, je m'attends à pas grand-chose de cette rencontre-là. Je suis dans le champ.
Je pense qu'il va y avoir des deals économiques. Je pense que la Chine doit signer des deals pour démontrer qu'ils sont donc bien un bon partenaire fiable et compétent. Mais sinon, je suis assez d'accord avec toi que ça va
sur la géopolitique mondiale, il n'y aura pas de changement. Là. On va être encore à cause départ. Trump va venir aux États-Unis, on va se demander ce qui se passe en Iran. Puis Taïwan, on va être encore dans cette espèce de zone grise-là.
Il va-tu y avoir une diminution des tarifs imposés aux entreprises américaines qui commandent en Chine?
Ben,
parce que si c'est le cas, Mark Carney doit commencer à se poser des questions. Là.
Ouais, ouais, parce que là, on est allé là-bas il n'y a pas si longtemps que ça pour essayer d'avoir un bon deal, nous, avec. Là. Mais tu sais, la Chine, leur position, là, c'est moi, je vais faire de la business avec n'importe qui. Ils n'ont pas tant de valeur par rapport à ça. Fait qu'ils vont faire de la business avec la Russie, avec l'Iran, avec les États-Unis, avec le Canada, avec l'Europe, n'importe qui. Là, ouais. Moi, appelle, puis je te vends des trucs, puis achète, puis paye. Là. Fait que, tu sais, c'est très, très possible qu'il y ait un... Je pense pas qu'un deal majeur du genre libre-échange, je sais pas quoi, va se signer, mais il peut y avoir des annonces de, je sais pas, Nvidia, justement, qui vont rapatrier une usine aux États-Unis, parce que c'est bien ça la thématique de Trump. Je pense pas que la délégation avec Trump va annoncer des investissements en Chine. C'est contraire à ce que lui veut. Donc là, peut-être que la Chine et les entités chinoises vont pouvoir annoncer un investissement aux États-Unis dans le cadre de cette visite-là. Peut-être, mais je suis d'accord avec toi, Jeff. Je pense pas qu'on va changer l'échiquier mondial géopolitique aujourd'hui. Là.
Les dernières nouvelles du jour en ce qui a trait au détroit d'Ormuz qui a un impact en fait sur le prix de l'essence.
Ben là, ce matin, l'Iran a dit les bateaux chinois peuvent passer librement. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de la visite? C'est probablement une provocation. Tu sais, l'Iran, en fait, en ce moment, il joue le rôle de. Je te pique avec une fourchette à fondu. J'essaie juste de te gasser dans les côtes. Là.
Ouais.
Puis, tu sais, ils sont comme en position de force. Là. On en a parlé souvent. Là. Ils sont en position de force parce que finalement, c'est les États-Unis qui veulent des choses. Puis, ils n'ont pas été capables de l'imposer. Puis, là, l'Iran est encore debout. Puis, il dit ben, moi, je veux pas changer de posture. Fait que...
Ouais, mais la stratégie est intéressante parce que Trump permet aux bateaux chinois, aux pétroliers chinois de passer. Ce qui fait en sorte que ce serait mal vu de la part des Iraniens de descendre un bateau chinois.
Ben là, c'est l'inverse. C'est l'Iran qui permet de passer. Là. Les États-Unis n'auraient pas bloqué ça, je pense pas. Là, mais parce que, tu sais, la situation.
C'est l'Iran qui permet aux bateaux chinois de passer.
Ouais, okay. Ouais, exact. Exact. Fait que, tu sais, c'est quand même majeur parce que là, ça veut dire de l'énergie qui peut ressortir de la région pour aller en Chine. Puis, bon, livrer des cossins pour continuer à faire les échanges économiques. Donc là, l'Iran se positionne en disant là, la Chine, moi, je suis ton meilleur buddy. Là, fait que, abandonne-moi pas dans tes négociations avec Trump parce que Trump arrive gros gens comme devant en disant Chinois, aide-moi en Iran. Fait que là, ben, l'Iran dit, t'as peu, moi, je vais te laisser passer, puis pourquoi tu te mêlerais de mes affaires? Tu sais, tu comprends, tout est lié là-dedans.
Ouais.
Puis la Chine est très, très stratégique, là. Elle va laisser passer ses bateaux, elle va acheter de l'énergie, ils vont s'appeler en back-channel, ce sera pas officiel, puis la Chine va dire à l'Iran, regarde, on continue une belle relation d'affaires, puis, tu sais, c'est la meilleure posture, finalement, parce que les États-Unis ont besoin de quelque chose par rapport à la Chine, puis la Chine n'a pas besoin vraiment de grand-chose par rapport aux États-Unis, outre faire du commerce.
Comment Trump a fait pour se placer dans autant de positions de faiblesse? Parce que là, ce que tu viens de dire, c'est qu'il est en faiblesse par rapport à la Chine. Il est en faiblesse par rapport à l'Iran, parce que l'Iran attend, bloque le détroit, puis... Il n'y en a pas de problème. T'sais, il est en faiblesse par rapport à l'Union européenne qui commence à faire des deals un peu partout à part avec les États-Unis. Il semble que les États-Unis perdent leur lustre pas à peu près. C'est-tu moi qui est trop anti-Trump? Puis je veux pas baigner dans ce anti-Trumpisme. Je fais juste essayer d'analyser les faits.
Ouais, t'as-tu une demi-heure pour ce genre de ça? Parce que ça peut être long. Mais sans farce, Ça a commencé, à mon sens, avec le Venezuela, parce que ça a dopé tout le monde à Washington de se dire « Est-ce qu'on est fort? » Je suis pas censé sacrer en angle.
Ouais, mais... je comprends.
On est fort.
Hey, on a réussi à faire ça, enlever Maduro, pack sans que personne s'en rende compte. Ouais.
Après ça, on est allé avec Cuba, pas vraiment la même opération militaire, mais blocus, puis en tout cas tout ce qu'on connaît qui fait que la vie là-bas est l'enfer. Ça a fonctionné. Fait que là, tout le monde à Washington s'est dit « Est-ce qu'on est fort, man? »
Fait que là, l'Iran, next.
Ouais, parce que tu sais, moi, ma perception, de ma lecture de la situation, c'est que l'administration en place, incluant Marco Rubio, puis Pete Hegseth, puis bon, toute cette gang-là, ils veulent créer l'histoire. Parce que tu sais, le narratif, c'est la meilleure prospérité américaine de l'histoire, puis le meilleur président.
Puis tu sais, même, ils veulent faire en sorte qu'il y ait des gains territoriaux aussi. Tu sais, ça fait partie, entre guillemets, de des visées de Trump, de cette administration-là, là, parce qu'on veut agrandir les États-Unis. Là. Ouais. Ça avait commencé avec le Groenland.
Exact. Puis là, ben, Trump, il y a quelques jours, a posté une image avec le flag des États-Unis sur le Venezuela.
Ouais, c'est ça.
Fait que là, à quel point c'est sérieux ou pas, je sais pas, mais le narratif est là. T'sais. Donc là, quand on va en Iran, c'est parce qu'on veut changer le régime. Ça fait longtemps qu'Israël demande ça, de changer le régime en Iran. Puis là, on est dopé par les succès précédents. Fait qu'on arrive avec la plus grande armée de l'histoire de l'humanité. On le dit tout le temps, puis c'est la meilleure armée pour vrai qui a jamais été créée. L'opération militaire va très bien. D'accord, il y a eu des décès du côté américain, puis il y a des jets qui ont été tirés, mais overall, c'est un méga succès militaire. Sauf que tant que tu fais ça des airs puis que tu vas pas ça sur terre, t'as pas le contrôle sur qu'est-ce qui va se passer. Donc là, le régime a survécu, parce que le régime est très organique en Iran. Il y a plusieurs personnes qui se partagent le pouvoir, puis ils ont encore plus décentralisé l'histoire. OK, l'ayatollah est mort, son fils est là, on sait pas trop il est où, il est blessé à la jambe apparemment, il est défiguré, mais on s'en fout dans l'histoire parce que le pays se gère pareil. Donc là, tu te mets dans une posture où tu as vraiment intervenu violemment pour faire un changement qui n'est pas arrivé. Puis là, tu veux pas sortir de là avec une défaite, parce que là, dans le fond, c'est littéralement une défaite. Ton objectif n'est pas atteint. Donc là, tu essaies de trouver des
trucs. Puis double défaite avec le détroit qui est fermé.
Ben c'est ça, là. L'Iran a réagi à ça, parce que là, l'Iran était dans son coin. Puis c'est fatigant, l'Iran, là, avec le terrorisme, puis les terroristes chiites, puis le Hezbollah, puis le Hamas. Puis tout, ça fait longtemps qu'ils sont fatigants, là. Mais eux autres, ils étaient comme, moi, j'ai rien demandé à personne, là, je veux juste faire gros gens, pas gros gens, mais ma petite
business, là, c'est on ça, va l'appeler de même.
C'est ça, tu sais, mon fonds de commerce au Moyen-Orient, là, tout va bien. Là, t'arrives, puis t'es sur le ring de lutte pour faire une citation avec un philosophe célèbre en avant de moi, où ce que tu vas sur le ring, tu tapes sur le chest, puis tu fais des grandes passes de lutte. Là, t'arrives dans mon ring à moi, là, puis là, moi, je t'attendais, je mangeais du popcorn, puis là, boum, troisième corde, tu tapes sur le chest, puis OK, mais le combat de lutte, tu l'as créé, fait que moi, je vais le faire, là. J'ai rien demandé, mais tu viens me chercher, pas de trouble, man. Moi, tu vas te payer une ride. Puis c'est ça qu'ils font en ce moment. Puis l'Iran n'a pas la capacité militaire de contrebalancer les États-Unis. Mais encore un matin, il annonçait qu'il allait utiliser des espèces de sous-marins de poche, là, des pockets à 3, 4, 5 personnes dedans. Un peu comme les Japonais faisaient dans la Deuxième Guerre mondiale, où c'est pratiquement des missions suicides. Il y en a combien? Combien qu'il va y avoir dans le détroit? C'est la même dynamique que les mines, là. On sait pas ils sont où, puis on sait pas le dommage que ça va faire, mais juste le fait que la menace existe, c'est suffisant pour vraiment fucker le chien.
Tu vois-tu un nouvel ordre mondial s'installer? Est-ce que ça va être les Américains, la Russie, puis les Chinois qui vont runner à business dans quelques années, dans 50 ans?
Ben là, avec le régime de Trump, là, ils se sont séparés à terre en trois. Là. Il y a la Russie qui s'occupe de l'Europe.
Ça va être tripolaire.
Oui, ben en tout cas, pour l'instant, c'est vers là que ça s'en va. Après ça, le prochain président va peut-être réaligner ça puis il va essayer de rattraper le retard. Mais en ce moment, la doctrine Trump, c'est très proche de la doctrine Monroe. C'est que toute l'Amérique est à lui. L'Europe est à Poutine. Puis l'Afrique puis l'Asie est à Xi Jinping. C'est comme ça. Ça s'est fait sur une napkin, comme un tramway. Fait que là, c'est ça qui se dessine en ce moment. Après ça, je pense pas que la volonté américaine à long terme va être de rester là, mais c'est un président très, très isolationniste. Puis ça, c'est un courant politique qui existe depuis très longtemps aux États-Unis. Donc là, ça, je pense pas que le prochain président, peu importe de quel parti, va être capable de démêler tout ça puis de défaire toutes les ficelles. Fait qu'on va être dans un genre de 20 ans où cette réalité-là va s'imposer. Après ça, je pense qu'on s'en va dans un monde multipolaire. L'Europe va se recentrer sur eux-mêmes, leurs intérêts. L'Union européenne, c'est toujours un fouillis, mais ils vont être capables de se réaligner, je pense, pour avoir une posture. Puis reste à voir les pays émergents comme en Afrique, puis l'Inde, qu'est-ce qui va se passer avec ça dans le futur.
David Chabot, merci, mais va-t'en pas. Les sports. Canadien de Montréal qui joue ce soir, ta prédiction, David?
Écoute, la défaite a fait mal, mais c'était pas impossible à rattraper. Moi, je pense que ça va être une victoire de 4-2 Montréal.
Qui va marquer le but gagnant, donc le troisième but.
Ben, Demidov est très dû. Mais ça reste qu'il n'y a pas des bonnes séries.
Il y a deux pièces avec toi qui en score pas un à soi.
Ben, écoute, moi, je I believe.
Non, je suis d'accord avec lui, moi. Demidov en mène dedans à soi.
3-2, ouais. Victoire du Canadien, Max.
5-4, Canadien.
5-4, Canadien.
4-3, Buffalo. Ça va être Zach Benson qui va jouer encore les troubles.
Tu vas-tu au centre Vidéotron ce soir, David?
Non, parce que j'avais déjà une sortie culturelle de prévue.
Ah, avec ta conjointe?
Oui.
Ça doit se faire plaisir.
Au Trident, c'est grand romantique.
Ben, écoute, ben, faut balancer toutes ces activités. Là.
Ben oui.
C'est beau.
C'est ça. C'est ce qui fait en sorte que vous avez le sourire. Messieurs, ce matin, puis moi, puis Max, on a l'air bête.
Ben non, je compte à moi.
Tu t'es. Oui, ça t'a réglé ton problème hier soir?
Quel problème?
En
solitaire.
Ah! Je parlais pas de ça. Jamais j'aurais osé parler
ben,
de ça.
Ben, moi, je faisais juste continuer la phrase que t'osais pas dire.
Max va être au centre Vidéotron ce soir. Tu t'attends à quel genre de Max? De match, Max?
Ça va être offensif ce soir. Ukko-Pekka Luukkonen, là, était bon au dernier match. Là,
il va l'échapper.
Il va l'échapper comme il a échappé le lob en première ronde face aux Bruins. Dobbs va peut-être être un petit peu moins solide aussi. Non, le jeu va s'ouvrir ce soir. Ça va être un bon show.
Sinon, y a-tu autre chose dans le monde du sport?
Ouais, ben dans la dernière heure, les Oilers d'Edmonton ont officialisé le congédiement. En fait, c'est pas vrai, c'est pas officiel encore, mais ça commence à sortir. Chris Knobloch, le coach en chef des Oilers, est congédié. Quel job ingrate, celle d'entraîneur. Le gars est arrivé avec les Oilers en 23-24. Finale de la coupe. Cette année, bonne saison régulière relativement. On perd en première ronde. Ciao, bye, t'es de war. Ça tient pas à grand-chose. Hâte de voir qui va le remplacer pour mener Connor McDavid et sa bande pour la suite.
Tu nous parles de quoi à 10h, Max?
On va faire un tour des théories du complot. Dossier intéressant de Radio-Canada ce matin là-dessus sur la hausse des gens qui croient en théorie du complot au Canada. Puis je suis retombé sur des chiffres de 2024.
Hey, théorie du complot, y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il n'y a jamais aucune station d'essence qui s'est associée avec d'autres stations d'essence?
Ça, on appelle ça de la collusion.
Ça peut être de la collusion.
On me l'a rappelé tantôt par texto.
Ça peut être des complots dans le but de faire un profit puis d'arnaquer sa clientèle.
Oui.
Ce genre de petits complots-là, ça existe. Dans certains pays un peu louches, nécessairement, ça existe. Dans The House of Cards, ça existe les complots.
Au PQ aussi.
Au Parti québécois, ça existe,
au
les
PQ,
complots.
Au PQ, ça existe
la surveillance du fédéral.
Oui.
Mais des histoires de la Terre est plate... Je peux pas croire qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui ramènent ça. Des histoires de les Américains ont jamais été sur la Lune. Je peux pas croire qu'il y a encore des gens.
En 2024.
C'est parce que c'est un manque de connaissances générales. Je veux dire, si tu regardes le contexte général de l'époque, là, quand les Américains étaient en guerre avec l'Union soviétique pour la course à l'espace, quand ils ont envoyé Yuri Gagarin, les Américains ont pogné les nerfs. Ils ont dit oh, tabarouette, ils sont en train de. Ils ont un pas d'avance sur nous. Fait qu'ils ont décidé d'y aller sur la Lune. Mais si jamais ils n'avaient pas été, c'est clair que l'Union soviétique aurait dénoncé ça. Ils ont félicité à l'époque les États-Unis de l'avoir fait.
En 2024, 11% des Canadiens croyaient que l'alunissage n'était jamais arrivé. Il y a 5% des Canadiens qui disaient que la Terre était ronde. Fait qu'on va faire le tour comme
non, tu t'es trompé.
Que la Terre était plate, oui, excuse.
Combien de pourcentage de Canadiens qui disent que la Terre est plate?
5.
5.
C'était ça en 2024. Puis là, j'ai plein de chiffres selon différentes.
Québec solidaire score à 6%, il n'y a pas de hasard.
Hey, mais 5%.
Mais attends, je dis même par parti. Puis sais-tu quel parti? Bon, mettons qu'on tasse le Parti populaire, là, parce que c'est 15% de ceux qui votaient Parti populaire.
De Maxime Bernier?
Ouais. Okay. Mais le deuxième parti qui croit le plus que la Terre est plate,
c'est le Parti libéral du Canada.
Non. Ça, c'est le moins à égalité que
le
NPD. C'est le Parti vert. Le Parti vert à 9% croyait, du moins en 2024, que la Terre... Puis tu sais, c'est des gens qui... Puis l'échantillon pour le Parti vert, il faut en trouver du monde qui vote Parti vert. Ouais. C'est sûr que l'échantillon est plus petit.
La COVID-19 mais... là, qui a servi à nous micro-pucer, c'est quoi ça?
Ben, en fait, que la COVID-19 était une arme biologique créée en laboratoire, 32% des... Canadiens croient ça, 68% chez ceux qui appuient le Parti populaire, 45% chez les conservateurs.
Fait que 3 personnes sur 10 pensent que la COVID-19, c'est un complot.
Ben, c'est quasiment une personne sur 3, oui.
OK. Puis, on a-tu les chiffres pour ce qui est des attentats du 11 septembre?
11 septembre, je l'ai-tu? Je pense pas que... Ah oui, je l'ai! 11 septembre, 16% des Canadiens.
Fait que quasiment 2 personnes sur 10 qui ont l'impression que c'est un complot interne.
Et du côté des États-Unis, c'est 25%.
Une personne sur 4. Les gens rationalisent pas les choses. Tu sais, quand on nous dit que les tours ont été dynamitées, là, puis c'est pour ça qu'ils sont descendus en étage comme ça. Là. Ça aurait pris combien de mois pour placer toutes les charges à l'intérieur des tours jumelles? Ça aurait pris des mois et des mois. Ça aurait pris combien de staff? Des centaines et des centaines de personnes. Donc, c'est des gens qui devaient prendre en considération que ce qu'ils étaient en train de faire, ça allait tuer des milliers de personnes ce jour-là. Il n'y a jamais personne qui a prévenu quelqu'un que, hey, ce jour-là, il va y avoir des explosions, ne sois pas là. Encore à ce jour, en 2026, là, ça fait quand même 25 ans, là, je ne suis pas un spécialiste en mathématiques, mais 2001, 2026, 25 ans.
Ça balance.
Merci, David. Il n'y a pas personne qui est arrivé sur son lit de mort et qui a dit « Hey, j'ai participé au complot du 11 septembre puis je suis vraiment désolé, je m'excuse d'avoir tué des milliers de personnes. » Mais il y a encore des gens qui pensent que c'est une job à l'interne.
Je te dirais qu'il ne faut pas que tu ailles toucher au gouvernement souvent ou longtemps pour comprendre que d'organiser quelque chose d'aussi gros que ça, ça ne marche pas.
Parfait.
Ça
maintenant, je te dis, David, je ne parlerai pas de toi personnellement, je vais parler de l'entreprise ici. Si jamais Max nous dit « Les gars, j'ai rencontré Bianca la semaine passée, puis là, j'aurais peut-être besoin d'une petite crème de 3 jours, ça pique. » Ça prend combien de temps avant que ça fasse le tour de l'entreprise?
D'après moi, dans l'après-midi, c'est réglé. C'est toi. Mais étais-tu cute, Bianca? Ben...
Non, mais tout le monde est au courant de ça. Ouais, fait qu'imagine-toi quand c'est un complot pour meurtre.
Ouais, tu sais. Il y a des choses quand même confidentielles qui se font avec la CIA et tout ça qui sortent jamais, d'accord, mais quelque chose de cette ampleur-là, quand on a de la misère à sortir le fax des hôpitaux, puis tu vas me dire qu'on va être capable de faire tomber des taux de 100 étages, de même sans que personne ne le sache.
Mais bref,
c'est pratique, les fax.
Ça a-tu fonctionné, la petite crème de 3 jours?
J'ai jamais pogné d'ITS de ma vie, Marceau.
On parlait même pas de ça.
C'était de la démangeaison.
Oui. On parlait d'une crise d'urticaire.
Exactement. Max, bon match au Centre Vidéotron ce soir. David, merci beaucoup d'être passé et d'être resté pour l'exceptionnel bulletin de sport de Max. Max, bon choix à 10h.
Merci.
Courte pause, on vient.
Pour nous informer de ce qui se passe dans...